Les matins de France Culture, Guillaume Erner.
Bonjour Thomas Piketty, vous êtes économiste, professeur à l'école d'économie de Paris. Pour dialoguer avec vous, je suis en compagnie de Marie Viennot. Expliquez-nous sur quoi repose cette idée de primaire.
Écoutez, on va pas se cacher, l'ambiance à gauche est quand même assez mauvaise. Donc il y a un besoin de débat, il y a un besoin de recréer de l'espoir. Si tout allait bien, ce serait moins nécessaire. Même si personnellement, je pense que ce serait sain dans tous les cas d'avoir un débat au grand jour pour redéfinir ce qu'est tout simplement le projet de la gauche pour les 5 ans qui viennent. C'est pas un appel contre Hollande ou pour Hollande. Je pense simplement que si vraiment François Hollande pense qu'il est le mieux placé pour la suite, il a quand même besoin d'expliquer pourquoi au grand jour. Cette idée qu'un président en place ne peut pas participer à des débats me paraît complètement folle. Il s'agit pas d'aller dans toutes les salles des fêtes de France, mais de faire 2, 3, 4 débats télévisés en octobre, novembre, quand la droite débattra au grand jour. Et cette idée que voilà, la gauche peut se permettre dans l'état où elle est de laisser débattre la droite et de faire attendre le bon peuple jusqu'au mois de mars suivant que le président daigne se déclarer, me semble complètement daté, complètement folle. J'entends plein de commentateurs politiques éminents qui disent « mais si, ça ne peut pas se passer autrement, c'est ainsi, ça me paraît juste fou ». Je pense que la seule chance de Hollande, comme de tous les autres candidats à gauche, c'est d'avoir ce débat au grand jour. On dit aussi, oui, les États-Unis, ils font pas de primaire pour le président sortant. D'abord, ils en font, elles sont rarement contestées. Et surtout, la grande différence, c'est qu'aujourd'hui, en France, on est dans un système où on a une tripartition de l'espace politique. C'est-à-dire que si on avait uniquement la droite ou la gauche, effectivement, on aurait le premier tour pour choisir le mieux placé de droite ou de gauche pour le second tour. À partir du moment où vous avez une tripartition de l'espace politique et l'extrême droite, ce système traditionnel électoral à deux tours arrête de fonctionner. Et si on n'a pas ce grand débat en amont, qui en plus laisse plus de temps pour le débat que simplement entre les deux tours, ça a quand même beaucoup d'avantages. Mais si on l'a pas, alors on est garanti de se retrouver comme en 2002. Moi, je fais partie de tous ces citoyens. J'avais voté pour Christiane Taubira au premier tour de 2002 et j'étais quand même un peu penaud le soir du premier tour. Bon, à l'époque, déjà, peut-être une primaire aurait arrangé les choses. Mais alors là, avec le Front National à 30% plutôt que 15%, si on ne fait pas de primaire, on est certain de se retrouver avec Sarkozy contre Le Pen ou Juppé contre Le Pen, ce qui n'est pas beaucoup mieux, au deuxième tour. Donc ça me paraît vraiment existentiel pour la gauche et pour la vie démocratique dans notre pays.
Il y a deux choses intéressantes, au moins dans cette idée de primaire. Tout d'abord, vous avez dit que vous essayeriez de plus vous intéresser aux idées qu'aux personnes. Puis, c'est aussi une idée qui permet plus généralement d'aborder ce que pourrait être un programme de gauche, c'est-à-dire pas seulement d'évoquer la déchéance de la nationalité qui a beaucoup occupé les esprits en ce moment, sur le plan économique, puisque vous êtes économiste, Thomas Piketty, avez-vous été satisfait par la politique économique menée par François Hollande depuis son élection ?
Non, évidemment, on a une série d'échecs aussi bien sur le plan de la politique européenne que sur le plan de la politique domestique, sociale, fiscale. Énormément d'improvisation. L'échec initial dont il va falloir redébattre aujourd'hui, c'est le fait qu'on n'ait pas renégocié le traité budgétaire européen de 2012. Parce qu'un nouveau traité a été... On dit toujours on peut pas changer les traités européens, sauf qu'en 2012, un nouveau traité, mais en l'occurrence un mauvais traité budgétaire qui a organisé l'austérité en Europe, a été adopté. Ce traité, François Hollande avait dit en 2012, je vais le renégocier, je vais rajouter de la croissance. Je crois qu'on peut dire officiellement aujourd'hui qu'il ne l'a pas fait. Donc sur cette obligation, il l'a trahi. Donc là, ça me paraît vraiment important, au moment où l'Espagne aussi est en train de changer de couleur politique, de remettre la question sur la table du traité budgétaire. Ce qu'il faut ajouter dans ces règles européennes, pour moi, c'est d'abord, avant tout, de la démocratie. C'est-à-dire que le choix du niveau de déficit de la politique de relance doit se faire non pas dans des conciliabules à huis clos où les ministres des Finances, les chefs d'État, dans un rapport de force souvent étrange, imposent des solutions qui n'ont quand même pas très bien marché ces dernières années, et doit se faire au grand jour dans un parlement de la zone euro où chaque pays, chaque citoyen serait représenté en proportion de sa population. Je veux juste rappeler une chose, la France avec l'Italie, l'Espagne, c'est 50% de la population de la zone euro, 50% du PIB de la zone euro, l'Allemagne c'est 25%, et puis tout le monde ne vote pas de la même façon au sein des députés allemands, français, espagnols, mais dans tous les cas, il y a la possibilité d'avoir une majorité en faveur de la croissance en Europe. Et donc je pense que le plus important, c'est quand même revenir... Ça fait partie des grands débats qu'il faut avoir sur la primaire. Et puis, il y a beaucoup d'erreurs et d'improvisations sur le plan de la politique fiscale, la politique sociale, au niveau simplement franco-français.
Lesquels ? Donnez-nous des exemples.
Oh, écoutez, on avait parlé de grandes réformes fiscales avant les élections et finalement on s'est retrouvé, je crois que un des moments clés du quinquennat, c'est quand en novembre 2012, donc 6 mois après avoir été élu, le gouvernement socialiste vote un plan avec une... Alors, c'est très étrange ce qu'on a fait. C'est-à-dire, on a commencé par supprimer les réductions de cotisations patronales qui avaient été décidées par le précédent gouvernement. Et à mon avis, il aurait fallu les maintenir. Et puis, on a réintroduit, donc en novembre 2012, cette usine à gaz invraisemblable qui est le crédit d'impôt compétitivité emploi, où on rembourse avec un an de retard aux entreprises une partie des cotisations qu'on leur avait, qu'elles ont versé un an plus tôt. Donc c'est la même chose que la chose présente, mais beaucoup plus compliquée, donc finalement moins efficace. Tout ça financé par une hausse de TVA, alors que pendant 10 ans dans l'opposition, le Parti Socialiste avait dit que c'était la pire des choses. Alors, tout ce débat sur la TVA sociale, c'est un débat compliqué. Moi, je respecte la position de ceux qui disent qu'il faut compter la TVA sociale. Je pense pas que c'est la bonne solution. Je pense qu'il faut mieux réformer le financement de notre protection sociale avec un grand prélèvement progressif sur tous les revenus. C'est un vrai débat. Ce qui est certain, c'est que ce débat, il faut l'avoir avant les élections. Justement, il faut à nouveau l'avoir aujourd'hui, ce débat, en amont des élections. On peut pas, quand on a dit dans l'opposition que l'augmentation de la TVA était la pire des politiques, 6 mois après avoir été élu, augmenter la TVA. Donc vous voyez, ce type de mensonge, de hiatus entre ce qui est dit avant les élections et ce qu'on fait au pouvoir, contribue au désenchantement de la politique. Et donc, ça fait partie des sujets dont il va falloir redébattre. Toutes les positions sont admissibles. Il y a plusieurs positions respectables à gauche comme à droite d'ailleurs. Moi, je ne cherche pas à dire que je détiens la bonne position. Je veux juste que tous ces débats exigeants, précis, rigoureux, ils aient lieu avant les élections pour pas que les décisions soient confisquées par d'autres après les élections.
Marie Viennot.
Oui, ce revirement de politique économique de François Hollande, donc qui décide de passer à une politique de l'offre, on favorise plutôt la compétitivité des entreprises. Beaucoup ont dit que c'était finalement le programme de Nicolas Sarkozy, qu'en fait François Hollande a appliqué le programme de Nicolas Sarkozy. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça ou vous voyez quand même encore des éléments de gauche dans la politique actuelle du gouvernement ?
Alors, je voudrais dire très clairement que pour moi, le problème de la politique de François Hollande, c'est pas du tout qu'il aurait mené une politique de l'offre. Le problème, c'est qu'il n'a pas de politique. Ce que j'ai dit à l'instant, c'est que sa politique n'est pas une politique de l'offre, c'est une politique d'improvisation, de bricolage, de confusion. Lorsque vous commencez par supprimer les réductions de cotisations patronales qui ont été faites sous Nicolas Sarkozy, puis que vous les remplacez par un crédit d'impôt où vous remboursez avec un an de retard. Le problème, c'est pas que vous faites une politique de l'offre. Le problème, c'est que vous faites n'importe quoi. Et pour le coup, je pense que cette réduction de cotisations patronales, moi, je suis pour. Je pense que le problème, c'est pas d'avoir une politique de l'offre, de politique de la demande. C'est de considérer que parmi les problèmes qu'on a en France, c'est qu'on a un modèle social qui pourrait mieux fonctionner, qui pourrait garantir mieux les droits. Par exemple, sur les retraites, on entendait parler du compte personnel d'activité, mais je pense qu'il faudrait fusionner les différents régimes de retraite pour que des jeunes qui ont des carrières compliquées à travers le secteur public, le secteur privé, accumulent les mêmes droits avec les mêmes cotisations. Je pense aussi que plutôt que d'augmenter la TVA pour financer la réduction des cotisations patronales comme l'a fait François Hollande, je pense qu'on aurait besoin d'avoir un modèle de financement de notre protection sociale qui repose sur tous les revenus. C'est-à-dire actuellement, le système, notre protection sociale, un de ses problèmes, c'est qu'elle repose de façon disproportionnée sur la masse salariale du secteur privé. Ce qui n'est pas bon pour la création d'emplois, que vous soyez de droite ou de gauche. Je pense qu'il faudrait que le financement de la protection sociale repose sur tous les revenus, c'est-à-dire salaire du privé, salaire du public, pension de retraite, revenu de patrimoine, revenu d'activité non salariée, avec un prélèvement progressif, c'est-à-dire qu'ils disent, bon, bien sûr, tout le monde doit contribuer, mais vous ne contribuez pas au même taux si vous avez 1 000 euros par mois, 5 000 euros par mois, 10 000 euros par mois, donc un prélèvement progressif sur tous les revenus. Donc, tout ça, ça s'accompagne très bien, c'est justement le but, d'une réduction des cotisations patronales pesant sur la masse salariale du secteur privé. Donc ça, en soi, ça ne me pose pas de problème. Le problème, c'est qu'en fait, on ne l'a pas fait. On l'a fait de façon complètement bricolée avec ce système de crédit d'impôt extrêmement inefficace parce que personne ne sait combien de temps il va durer. Et à la fin du quinquennat, Hollande nous dit « Ah, finalement, je vais peut-être remplacer mon CICE par une réduction de cotisation patronale », c'est-à-dire ce qu'il a supprimé au début. Moi, ça me fait quand même penser aux histoires de Sarkozy qui, au bout de son quinquennat, finit par supprimer le bouclier fiscal qu'il a créé au début. Enfin, il aurait peut-être mieux fait d'y réfléchir avant d'arriver au pouvoir.
Mais alors justement, est-ce cette politique de gribouille, vous semblez décrire ce qui est pour vous une politique de gribouille, qui explique le haut niveau du chômage en France, Thomas Piketty ?
Ça a contribué, c'est le mélange. Il y a deux choses qui expliquent pourquoi le chômage n'a pas baissé depuis 2012. Il y a d'abord le fait qu'en Europe, on a cassé la croissance en 2011, 2012, 2013. Il faut quand même revenir sur l'action. C'est-à-dire qu'en 2007-2008, une crise financière sans précédent depuis la Deuxième Guerre mondiale s'abat sur le monde. Enfin, c'est pas tombé du ciel, hein, c'est tombé de l'excès des régulations financières dans le secteur financier privé américain. À partir de 2009, début 2009-2010, la reprise s'amorce et début 2010, les États-Unis comme l'Europe, après avoir connu la plus grave récession depuis l'après-guerre, ont retrouvé quasiment début 2010 leur niveau d'activité de 2007. Et là, il se passe quelque chose de très étonnant, c'est-à-dire que la zone euro rentre en 2011, 2012, 2013 dans une nouvelle récession, alors que les États-Unis poursuivent leur voie. Et aujourd'hui, les États-Unis ont dépassé de plus de 10% leur niveau d'activité de 2007. Donc, ils sont complètement sortis de la crise qu'ils avaient eux-mêmes provoquée. Et nous, en Europe, à cause de nos mauvaises politiques, on a transformé une crise qui, au départ, venait des États-Unis, du secteur financier privé américain, en une crise durable européenne de la dette publique, alors qu'au départ, on n'a pas plus de dette publique en Europe qu'aux États-Unis, qu'au Japon, qu'au Royaume-Uni. Donc, que s'est-il passé en 2011, 2012, 2013? Eh bien, on a fait de mauvais choix, collectivement, à cause notamment de la France et de l'Allemagne, des deux gouvernements successifs, Sarkozy et Hollande, qui, en 2011, 2012, 2013, ont fait le choix, avec l'Allemagne, de chercher à réduire les déficits trop vite, avec des augmentations d'impôts extrêmement lourdes en 2011, 2012, 2013, qui ont cassé la croissance. Et ça, on vit encore avec cet héritage, parce que la croissance en 2013, 2014 a été extrêmement faible, se redresse légèrement en zone euro depuis fin 2014, début 2015, mais on a perdu 5 ans. Après, il y a toutes les improvisations sur la politique fiscale et sociale en France qui ont aggravé les choses. C'est-à-dire que si vous mettez 20 milliards d'euros dans un dispositif de CICE dont personne ne connaît la pérennité, donc personne ne sait quel sera-t-il l'année suivante, ça, évidemment, vous avez une perte en ligne très importante parce que, d'abord, le système est très mal compris. Hein, si vous demandez aux entreprises, est-ce que vous savez finalement quel sera le coût sur cette embauche, etc. Le dispositif est tellement compliqué que la plupart n'en savent rien. Donc, reçoivent un chèque de CICE comme ça, sans l'avoir prévu. Donc là, pile au moment où on n'a pas d'argent dans les caisses publiques, aller mettre comme ça autant d'argent dans un dispositif aussi inefficace, ça aide pas. Mais la première erreur, c'est quand même une orientation de la politique budgétaire européenne qui, par rapport aux États-Unis, juste, c'est pas, à nouveau, ça va au-delà de la droite et de la gauche. Et si on compare par rapport à la trajectoire américaine, on a gâché 5 ans en Europe.
Si je vous comprends bien, l'incertitude programmatique, le fait qu'on ait élu finalement un gouvernement et un homme sans savoir sur quelle politique économique il allait s'acheminer, a un prix politique, ça c'est évident, mais aussi un prix économique, parce que finalement elle fait vivre les agents économiques en état d'incertitude.
Oui, et puis elle fait reposer beaucoup de décisions, voilà, sur une seule personne ou sur un tout petit cercle à l'Élysée. Et ça c'est malsain parce que ça conduit à déresponsabiliser aussi les autres acteurs politiques, les députés, les ministres qui vous expliquent tous ah bah oui c'est pas terrible tout ça, c'est pas terrible le CICE, c'est pas terrible la déchéance de nationalité, c'est le moins qu'on puisse dire. Mais François Hollande l'a décidé, donc maintenant quand même on peut quand même
petit
pas
cercle
le
Thomas Piketty, ouais. Emmanuel Macron.
Ah ben, je crois que Emmanuel Macron est clairement co-responsable d'un désastre de politique économique, puisqu'il était secrétaire général adjoint de l'Élysée, principal conseiller économique. Donc après, il arrive 4 ans plus tard et il nous dit « Ah, mais c'est parce qu'on m'a pas assez écouté, si on avait fait mes réformes plus vite, si on avait changé les horaires d'ouverture des magasins, ouvert des lignes de bus, il n'y aurait pas eu de récession en zone euro en 2011-2013. » Enfin, qui croit à cette bêtise? Enfin, s'il y a eu une récession en zone euro en 2011-2013, c'est parce que les choix très lourds de non-renégociation du traité budgétaire européen et de réduction trop rapide des déficits avec des augmentations d'impôts beaucoup trop fortes en 2012-2013 ont été faits par qui? Par François Hollande, par Emmanuel Macron, par les personnes qui étaient impliquées dans ces décisions. Donc là, je crois qu'il y a un moment, il faut quand même prendre ses responsabilités. Il faut reconnaître ses erreurs. Tout le monde fait des erreurs, mais simplement, oui, on ne peut pas mettre sur le dos des réformes, l'absence de réformes, ce qui n'a rien à voir avec ça, ce qui est une erreur de politique européenne et macroéconomique. Je pense qu'à un moment, c'est important pour repartir pour la suite. Parce que ce qui compte, c'est la suite. Je veux dire, ce traité budgétaire européen, on peut encore le modifier. Donc moi, je veux dire, on va pas regarder dans le rétroviseur éternellement. Mais c'est pour ça qu'on a besoin de ce grand débat sur la primaire de gauche cet automne, pour pouvoir débattre de tout ça au grand jour.
Marie Viennot.
Le début de l'année a amené pas mal de préoccupations économiques, la faiblesse de la Chine, le pétrole trop bon marché, les banques centrales qui semblent arriver au bout de leur soutien à l'économie et au marché financier. Qu'est-ce qui vous préoccupe, vous, pour l'année qui vient?
Les marchés financiers mondiaux sont toujours structurellement extrêmement instables. Donc, est-ce qu'on va avoir un nouveau crack? Personne n'est capable de le dire. Ce qui est certain, c'est qu'il faut toujours se tenir prêt à ce que la puissance publique intervienne pour rétablir un peu de stabilité, parce qu'on a un système financier mondial qui est structurellement extrêmement instable. Avec on parle des excès de liquidité, mais globalement, on a une taille des bilans des banques, des institutions financières dans le monde qui sans comparaison par rapport à ce qu'elles étaient il y a 10 ans ou 20 ans. Donc tout ça fait que ça peut dérailler à tout moment, et maintenant à un niveau véritablement mondial avec les incertitudes sur la Chine. Maintenant, en Europe, je crois qu'il faut comprendre qu'on n'est toujours pas vraiment sorti de la crise, de la récession qui a commencé en 2007-2008. Donc on a besoin d'une politique de relance en Europe. On a besoin d'investir dans l'avenir, dans l'innovation, dans l'enseignement supérieur. Vous savez, tout le monde aime beaucoup Erasmus en Europe, mais Erasmus, le budget annuel, c'est 2 milliards d'euros par an, alors qu'on paye 200 milliards d'euros par an en intérêt de la dette publique à nous-mêmes, parce que c'est une dette essentiellement interne, puisque l'Europe se possède elle-même et même possède plus d'actifs financiers dans le reste du monde que le reste du monde dans l'Europe, ce qui est quand même un point important, parce que parfois on s'imagine qu'on est dans une situation où on n'a aucune marge de manœuvre. On pourrait tout à fait, au lieu de se reverser 200 milliards d'euros d'intérêt de la dette à nous-mêmes, faire une politique dans laquelle on rééchelonne la dette, on a un moratoire sur la dette. C'est ce qui s'est passé après la Deuxième Guerre mondiale. L'Allemagne en avait beaucoup bénéficié, n'a jamais remboursé sa dette après la Deuxième Guerre mondiale. Donc il faut reprendre toutes ces questions pour que l'Europe aussi soit capable d'être plus ouverte face au monde, parce que c'est d'abord cette montée du chômage qui a conduit à la xénophobie actuelle et à cette attitude fermée sur les réfugiés, sur le reste du monde. Donc tout ça va ensemble.